Bon matin, tout le monde.
Bon matin.
C'est encore un privilège que j'ai de pouvoir venir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais m'effacer devant la parole de Dieu, devant le Seigneur. Si c'était possible, je me cacherais comme ça, juste pour que vous entendiez la voix. Puis que vous n'entendiez pas ma voix, mais la voix du Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas comme ça que ça se passe tout à fait. Ce matin, je voudrais vous partager, je profite du fait que nous ayons notre réunion annuelle cet après-midi pour vous partager le passage de 1 Timothée chapitre 3. L'objectif de l'apôtre Paul ici, c'est que Timothée et les membres de son église, l'église d'Éphèse, sachent comment il faut se conduire dans l'église. L'apôtre Paul, il a fait un assez long séjour à Éphèse et il a laissé là deux de ses collaborateurs, Priscille et Aquilas, puis aussi éventuellement Timothée qui était un ancien de cette église-là. Alors, courbez-vous avec moi pour commencer, on va mettre ça dans les mains du Seigneur puis après ça on va lire le passage. Merci, Père, pour ce privilège qu'on a de t'appartenir. Merci parce que tu m'as racheté, que tu nous as racheté à un grand prix, que tu as payé de ta vie, Seigneur Jésus, pour la rançon de nos péchés. Merci parce que tu t'es fait chair, que tu as habité parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est toi, Père, qui es descendu en prenant une forme humaine pour venir nous racheter de nos péchés. On te loue pour ça, on te prie de nous parler à travers ta parole. Montre-nous, Seigneur, comment nous devons nous conduire dans ton Église, qui est l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. On te le demande, Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, 1 Timothée, au chapitre 3. Au chapitre 1, on peut lire ce qui suit. Il dit, « Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine. » Il parle à Timothée. « Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner, etc. » Alors, l'apôtre Paul a laissé Timothée à Éphèse. Puis, pour qu'il puisse mettre de l'ordre dans l'église d'Éphèse pour que ça se passe, tout se passe en ordre. Alors, au chapitre 3, à partir du verset 1, on va lire le chapitre complet. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquiert d'un rang honorable et d'une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors, comme j'ai dit, l'objectif de l'apôtre Paul, c'est que Timothée et les membres de son assemblée sachent comment il faut se conduire dans l'Église. C'est donc qu'il y a des choses à faire, puis il y a des choses à ne pas faire. Il y a un ordre nécessaire. Chaque personne dans l'Église a un rôle. On sait que nous autres, les enfants de Dieu, l'Église, les membres de l'Église, on est le corps de Christ. Et chacun de nous a un rôle à jouer. On a des responsabilités, il y a un rôle à jouer. Alors ici, Paul parle de la direction de l'Église, du gouvernement d'Église. Alors, les personnes qui sont en autorité dans l'Église. Premièrement, il nous parle des anciens. Bon, dans le Nouveau Testament, le mot « ancien » s'est traduit par « presbytéro ». Presbytéro. Ce terme-là, ça veut dire « maturité, autorité ». Alors, ça réfère à la direction d'Église. Et le mot « surveillant », qui réfère à une des responsabilités des anciens, c'est « épiscopès ». Ça désigne donc quelqu'un qui surveille spirituellement ce qui se passe dans l'Assemblée. C'est eux, les anciens, qui ont la responsabilité de s'assurer de la marche spirituelle dans l'Assemblée. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont prévues pour faire ça dans le Nouveau Testament que les anciens dans l'Église. Alors, les qualifications des anciens, Paul nous donne les qualifications des anciens des évêques. Il dit qu'ils doivent être irréprochables, mariés d'une seule femme, sobres, modérés, hospitaliers, propres à l'enseignement, non violents, non attachés à l'argent, capables de bien diriger sa maison, non nouveau converti, puis avoir un bon témoignage. Alors, on va survoler ces aspects-là, ces critères-là que l'apôtre Paul nous donne. Il dit, la vie d'un ancien doit être en ordre, irréprochable, nous dit l'apôtre Paul. Irréprochable, ça veut dire qu'on n'a rien à lui reprocher. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont parfaits? Ils doivent être parfaits? Si quelqu'un pense que les anciens dans l'Église sont parfaits, vous allez être déçus. Si un ancien qui pense qu'il est parfait, il se trompe lui-même. La nature pécheresse est toujours là. En tant qu'enfant de Dieu, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir de nous séparer de l'amour de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, mais le péché est un obstacle à la communion avec le Seigneur. Puis aussi, il y a un obstacle à notre service. Et à plus forte raison, si un ancien il a des péchés dans sa vie, c'est un grave obstacle à son service puis à sa communion avec le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul va nous donner un aperçu de ce qu'il entend par irréprochable. Quel domaine de nos vies il faut surveiller quand on est un ancien? Alors, premièrement, il dit « marié d'une seule femme ». Alors, ça exclut évidemment la polygamie. Le Seigneur, il dit dans Genèse, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Il dit « s'attachera ». Pas attaché avec la ficelle, attaché avec la grosse broche. C'est quelque chose qui doit durer jusqu'à la fin de la vie. C'est ça le mariage. Ensuite de ça, il dit sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Alors, ces trois choses-là, ces trois expressions-là, c'est plus ou moins des synonymes où ça va ensemble. La sobriété, ça va bien au-delà de la question d'alcool. Ça parle de garder un esprit lucide, de ne pas se laisser dominer par nos passions. Alors, c'est d'agir avec maîtrise, avec sagesse. rester spirituellement vigilant. Alors, l'ancien doit être vigilant spirituellement 24 heures par jour, 365 jours par année. L'extravagance n'a pas sa place dans cette description-là. Maîtriser ses émotions, maîtriser ses pensées, maîtriser ses paroles, maîtriser ses désirs, c'est d'être équilibré en toutes choses. Alors, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, c'est ça que ça veut dire. C'est des critères qui sont élevés. Ensuite de ça, il dit hospitalier. Hospitalier, ça vient du mot grec, d'un mot grec, philoexénos. Philo, c'est aimer, puis xénos, xénophobie. Savez-vous c'est quoi la xénophobie? C'est la haine ou la peur des étrangers. Quand on est xénophobe, c'est qu'on n'aime pas les étrangers, mais ici, c'est philoxénos. Alors, c'est aimer les étrangers. Aimer les étrangers, aimer les invités. Quand il vient des invités, l'ancien, quand il arrive des invités, il est supposé de les aimer, de les accueillir, d'aller vers eux. Les anciens doivent accueillir les invités. Dans le Nouveau Testament, au 1er siècle, lorsqu'il y avait des gens qui arrivaient, les anciens les accueillaient, puis non seulement ils les accueillaient, mais dans leur maison, mais aussi ils marquaient avec ça propre à l'enseignement. Alors, ce n'était pas tout de les accueillir, mais l'ancien devait pouvoir les enseigner. Un ancien ne devait pas seulement accueillir les gens, mais aussi pouvoir leur expliquer les Écritures. Répondre aux questions, corriger les fausses doctrines. Ça se faisait dans les maisons. On voit un exemple de ça dans Actes, chapitre 18, verset 26, où Priscille et Aquilas prennent Apollos chez eux pour lui expliquer plus exactement les voies de Dieu. Alors, les anciens dans l'Église, quand il vient des personnes, on doit les accueillir, être hospitalier, puis aussi on doit s'assurer qu'ils vont entendre le message de l'Évangile, puis on doit s'assurer aussi qu'ils ne propageront pas de mauvais messages de l'Évangile. C'est les surveillants, puis ils doivent être hospitaliers, mais aussi propres à l'enseignement, propres à corriger les erreurs de doctrine. Pour enseigner, il faut être capable de mettre soi-même en pratique la parole de Dieu. C'est assez inconfortable d'enseigner quelque chose aux autres lorsqu'on n'est pas capable de le mettre en pratique nous-mêmes. Et le Seigneur Jésus, dans Luc 6, 41, c'est ça qu'il reproche à ses auditeurs. Il leur dit, pourquoi vois-tu ce qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi ne vois-tu pas la... Voyons, j'ai mal écrit ça, là.
Pourquoi ne vois-tu pas la...
N'aperçois-tu pas la paille dans... Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre dans le tien? Alors, on va voir que l'enseignement, la qualité d'enseigner d'un ancien, c'est pas seulement une question de diplôme en théologie, mais c'est une question ni de diplôme en théologie, puis ni même seulement de dons spirituels. On va voir ça en quelques minutes. Après ça, il dit non à donner, pas à donner au vin. Alors, c'est de ne pas être dominé par l'alcool. Ça, pour les anciens, ça va plus loin que l'ivresse. La parole de Dieu nous dénonce l'ivresse. Alors, pas à donner au vin, c'est quelqu'un qui aime le vin, qui a tout le temps un verre de vin dans les mains, même s'il n'est jamais ivre. Il y a tout le temps, ça y prend son verre de vin. Il faut faire attention. L'ancien doit être irréprochable, donner l'exemple. Alors, ce n'est pas une interdiction complète pour l'ancien de prendre l'alcool, Même l'apôtre Paul recommande à Timothée d'en prendre à cause de son estomac, de ses légères indispositions. Mais il faut agir avec une grande prudence et même aller, ça va plus loin que juste ne pas s'enivrer. Non violent, mais indulgent et pacifique. Alors, ça va de soi. L'ancien ne devrait pas être violent. Puis ça, malheureusement, on a eu des exemples, même ici au Québec. L'ancien ne doit pas être violent. Un ancien, un diacre, ou même un chrétien qui désire exercer un ministère dans la vie de quelqu'un, amener quelqu'un dans la vérité, pour toucher le cœur de quelqu'un, il faut toucher. Pour toucher quelqu'un, il faut aller vers le cœur, et non vers la psychologie, puis encore moins vers le corps. Alors, c'est zéro violence sous toutes ses formes. Indulgent, pacifique, être des ambassadeurs de paix. Quand les personnes côtoient les anciens, il faut qu'ils sachent que l'ancien, il est doux, il va les accueillir avec douceur, il va les comprendre, il va être indulgent, il va être pacifique. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 5, 1, il dit « Ne réprimande pas durement le vieillard. » Il dit ça à Timothée. Fais attention, spécialement les personnes âgées, vas-y avec douceur. S'il y a quelque chose, il y a une réprimande à faire, que ce soit avec douceur, avec amour. Le Seigneur donne d'ailleurs les instructions en ce qui concerne la discipline biblique. Elle se fait avec douceur dans l'amour. On voit ça dans Matthieu. Le seul moment où le Seigneur, puis aussi même l'apôtre Paul, hausse le ton, c'est avec les faux docteurs. Là, il va avoir un ton plus coercitif, mais ce n'est pas la violence. Quand le Seigneur il chasse les vendeurs du temple, il ne s'en prend pas aux personnes, il s'en prend aux objets, il ne va pas frapper les vendeurs, mais il va débarrasser les objets qui sont sur ces tables. Désintéressé. Désintéressé, ça aussi c'est intéressant et c'est important. Quand quelqu'un vient en avant partager la parole, ou un ancien qui vient partager la parole, ou peu importe comment et où et quand dans son ministère, il doit rechercher d'aucune façon ses propres intérêts. Pas pour l'argent, pas pour le prestige, pas pour sa gloire, pas pour se donner en exemple, pas pour raconter ses exploits, pas pour le pouvoir, pas pour quoi que ce soit d'autre qui lui procure un avantage ou quelque chose personnel. Quand quelqu'un vient en avant partager la parole, la seule personne qui doit être élevée, c'est la personne de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Jean-Baptiste voit arriver le Seigneur, il dit à ses disciples qu'il croisse et que je diminue. C'est dans cette optique-là que l'apôtre Paul il recommande à Timothée que l'ancien doit être désintéressé. C'est la personne du Seigneur qui doit être élevée. Bien diriger sa propre maison. Pourquoi? Bien, poser la question, c'est y répondre. Si tu n'es pas capable de diriger ta petite maison, ta petite famille, comment vas-tu faire pour diriger la grande église de Dieu? Il y a plus de personnes. Il y a plus de responsabilités. Il y a plus de défis. Parfois, plus de temps à consacrer. Plus d'énergie, plus de doigté, il y a plus de tout, finalement. Il doit bien diriger sa propre maison. Il ne doit pas être un nouveau converti et recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Pourquoi? Pourquoi il ne doit pas être un nouveau converti? Parce que le diable rôde. Puis, ses poids de prédilection, c'est les jeunes brebis. si vous écoutez des émissions de nature, soit que ce soit en Afrique ou même ici avec des prédateurs, les ours, qu'est-ce qui après quoi qui courent? C'est quoi leur proie les plus faciles de prédilection? C'est les jeunes, qui sont encore fragiles, qui sont faibles. Non attachés à l'argent. Ici, à l'église de Saint-Just, les anciens ne reçoivent aucune rémunération sous aucune forme. Zéro pièce plus zéro cent. On est toutes des personnes qui sont retraitées. Puis l'église, on n'est pas à la charge de l'église. Mais comme vous savez, il y a des pasteurs qui se promènent en jet privé, puis qui habitent des châteaux, puis que leur ministère répond plus à la définition d'une business qu'à la définition d'un ministère chrétien. Ceci étant dit, puis je ne dis pas ça pour mon bénéfice ou celui de Michel et Jean-Marc, mais le Seigneur dit, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. » Alors, si les anciens ont des responsabilités, les croyants aussi, on va le voir un peu plus loin encore, les croyants aussi ont des responsabilités. Puis nous autres ici, comme Église, on est une exception par rapport à ça dans ce domaine-là. On peut se permettre ça. L'apôtre Paul il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Celui qui aspire, là, ça veut dire celui qui désire servir. Aspirer, ce n'est pas celui qui désire avoir un siège rembourré ici en avant, puis qui s'assit là avec un siège avec un rembourreur, puis un tissu rouge, puis en satin. Ce n'est pas ça, aspirer. Aspirer, c'est désir servir. Ce service est sur la maison de Dieu. Ancien, ce n'est pas un titre de noblesse, mais c'est un titre de serviteur. Il faut que l'ancien soit un serviteur qui se lève et qui sert. Un exemple qui marche devant, comme le berger. Si vous avez déjà vu un berger avec ses moutons, qu'est-ce qu'il fait? Il marche, puis on voit les moutons suivre. Ce n'est pas pour rien qu'on dit c'est une gang de moutons. Parce que ça suit. Le berger marche en avant, puis les moutons suivent. C'est comme ça que ça devrait être un ancien. Et remarquez que l'apôtre Paul, dans tout ce qu'on vient de voir, il n'énumère pas les diplômes requis pour être un ancien. Je connais un homme dans la région de Montréal, un jeune pasteur proche de la cinquantaine. Ce monsieur-là, il a fait une formation universitaire en génie, en informatique, en génie électrique, puis il a travaillé quelques années, sûrement gagnait des gros salaires, probablement, je ne sais pas comment, mais des gros salaires. Puis après avoir travaillé quelques années, il a laissé son travail, s'est en allé faire des études en théologie, 4-5 années, d'aller aux États-Unis. Ça, c'est vraiment admirable et l'Église a besoin d'hommes comme ça. Et heureusement, cet homme-là, il n'avait pas seulement les diplômes, mais il avait le caractère chrétien, puis il y a le caractère chrétien que l'apôtre Paul nous recommande ici dans l'épître de Paul à Timothée. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Alors, la connaissance, oui, c'est important. L'étude, d'avoir médité, d'avoir étudié les Écritures, c'est important. Mais ici, ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul il nous parle. L'apôtre Paul, ici, pour les qualificatifs d'anciens, c'est le caractère chrétien. La seule chose qu'il nous dit au sujet des connaissances, bien, il dit, c'est d'être propre à l'enseignement. Évidemment, c'est important aussi. Comment il faut se conduire? Alors, ce n'est pas simplement comment Timothée devrait se conduire, mais comment les chrétiens devraient se conduire. C'est l'ordre dans l'Église. Puis, l'apôtre Paul, il n'est pas le seul à nous parler de ça. Dans 1 Pierre au chapitre 5, versets 1 à 4, L'apôtre Pierre dit ceci, « Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, et témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Pour les anciens qui dirigent bien, qui font bien leur ministère, la parole de Dieu promet la couronne incorruptible de gloire. Et au verset 5, l'apôtre Pierre y poursuit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » Et dans Hébreux chapitre 13, verset 17, l'auteur nous dit ceci, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui serait pour vous d'aucun avantage. » Des pasteurs, des anciens qui dirigent en gémissant, il y en a un puis un autre. Puis ça, c'est pas bon, ni pour le pasteur ou l'ancien, puis ni pour les frères et sœurs qui sont sous sa garde. Et vous remarquez aussi, qu'est-ce qu'il nous dit ici l'apôtre Pierre? Il dit que les anciens, ils vont devoir rendre compte pour les fidèles qui sont sous sa charge. Alors ça résume ce que l'apôtre Paul nous dit pour les anciens. Maintenant, pour les diacres. Pour les diacres, l'apôtre Paul il dit qu'il faut qu'ils soient honnêtes, éloignés de duplicité, des excès de vin et d'un gain sordide. Alors, il doit être vrai. Alors, ce n'est pas une personne à deux faces. Il dit la duplicité, c'est. Il parle des deux côtés de la bouche. Une journée, il dit une affaire, le lendemain, il dit une autre. Ici, à l'Église, il agit d'une certaine façon, mais quand il est ailleurs, c'est plus pareil. Il ne faut pas que ce soit un menteur, un voleur, un tricheur. Il faut qu'il soit honnête. Pas de gain sordide. Pas là pour l'argent. Dans Acte 6, lorsqu'on voit l'institution des diacres, c'est institué pour servir aux tables. Il n'est pas question de salaire là-dedans. Pas d'excès de vin. Je ne crois pas que Paul voyait une très grande différence entre les anciens et les diacres au sujet du vin. Puis même, j'ajouterais pour les chrétiens en général. Il faut être modéré, très modéré dans ce domaine-là. On a l'exemple d'Ananias et Saphira qui ont été malhonnêtes. Ce n'est pas dit que c'était des diacres, mais c'était des membres de l'Assemblée. Puis on voit qu'est-ce qui leur est arrivé. C'est sérieux. Il dit, conservant le mystère, verset 9, 1 Timothée 3, 9, on est toujours dans 1 Timothée 3, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Alors, il ne faut pas qu'un diacre vive dans le péché. Il ne faut pas qu'il y ait sans cesse des problèmes de conscience. Il ne faut pas que sa conscience le trouble continuellement. Qu'on les éprouve d'abord au verset 10 et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Il faut qu'ils aient fait leur preuve, un bon témoignage. Qu'est-ce qu'on s'attend d'eux? C'est qu'ils l'exercent, c'est-à-dire qu'ils servent. Il faut qu'ils soient sans reproche. Ils ne doivent pas vivre dans le péché. Ici encore, ce n'est pas la perfection qui est exigée, comme je vous ai expliqué tantôt. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 58, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Si l'apôtre Paul nous dit de travailler de mieux en mieux, ça veut dire que la semaine prochaine, il faudrait que j'essaye de travailler mieux que j'ai travaillé cette semaine. Ça veut dire que cette semaine, ce n'est pas parfait, je peux faire mieux. Alors, pour les anciens, pour les diacres, puis pour chacun de nous comme chrétiens, qu'est-ce que c'est dans notre... quelle perspective on doit avoir face au service pour le Seigneur? Bien, c'est toujours de s'améliorer, de faire mieux. Alors, c'est ça pour tout chrétien, à plus forte raison quand on est un ancien ou un diacre. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes. Alors, il est question ici des diaconesses. Il est question des diaconesses. Dans Romains 16, 1, l'apôtre Paul dit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse à l'église de Sancré. » Il y a toutes sortes de théories pour essayer de dire que ce n'est pas des diaconesses, mais c'est les femmes des diacres, mais ça ne tient pas la route. On ne s'attendra pas trop là-dessus, mais il y a des personnes qui trouvent le moyen de faire dire aux Écritures ce que... de dire ce que les Écritures ne disent. de dire ce que ça ne veut pas dire quand ça dit ça. Alors, il dit non médisante. Médire, c'est quoi? C'est dire du mal des autres, qui répand des paroles défavorables sur quelqu'un, qui critique ou dénigre une personne. Ça, c'est facile. Alors, il dit ça au sujet des femmes, mais ça ne se concerne pas seulement les femmes, ça concerne les chrétiens en général. Sobre, fidèle en toutes choses. Alors, le mot grec ici pour sobre, là, néphalios, ça parle, ici, c'est pas, il n'est pas question de... Ça ne parle pas de l'alcool, mais ça parle de la maîtrise de soi, de la lucidité, de l'équilibre intérieur. Ça concerne les réactions, les paroles, le comportement en général. L'apôtre Paul en rajoute lorsqu'il parle à Tite. Dans Tite, chapitre 2, verset 3, il dit, au sujet des femmes, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. L'apparence extérieure, bien, il parle des vêtements. Ce n'est pas pour mettre le corps en évidence. Ce n'est pas des extravagances. Ce n'est pas pour attirer les regards. Ça, c'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai pour les hommes aussi. Ça, ce sont des notions qui sont contraires à ce que la société actuelle veut nous enseigner, nous faire croire. Dans la société, sois belle, c'est l'extérieur, c'est le corps, puis la plupart du temps, c'est le corps habillé assez légèrement. Tandis que pour nous, les chrétiens, sois belle, c'est le caractère chrétien, c'est le cœur, c'est le caractère intérieur. Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10, l'apôtre Paul encore qui parle à Timothée, il dit « Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Malheureusement, les madames, vous ne pouvez plus mettre de bijoux. C'est ça que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit d'être bien habillées, de porter un beau costume, une belle robe, de porter un bijou. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui doit les caractériser. Ce qui ressort de cette personne-là, de cette femme-là, ce n'est pas le bijou qu'elle avait dimanche matin ou le chapeau qu'elle avait dimanche matin. Ce n'est pas un concours de chapeau. Ce qui doit ressortir de la femme chrétienne, qu'elle soit une diaconesse ou une femme chrétienne, n'importe quelle femme chrétienne, c'est son caractère chrétien. Et ça, c'est très important. C'est très important. Le diacre doit être marié d'une seule femme et dirigez bien leurs enfants et leur propre maison. Alors, c'est la même chose, on en a parlé tantôt pour les diacres, pour les anciens. Alors, c'est plus ou moins les mêmes exigences que pour les anciens. C'est les mêmes, c'est les, le même raisonnement. Il faut être capable de diriger sa maison avant de diriger l'Église. Verset 13, il dit « Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Les diacres qui servent bien, ils attirent le respect des frères et sœurs de l'Assemblée des autres croyants, s'ils remplissent bien leur ministère. Puis aussi, il dit « Une grande assurance dans la foi, quand on sert, plus on sert, plus on expérimente la relation avec Dieu. Agir avec foi, ça nous aide à grandir spirituellement, puis ça nous produit l'obéissance, produit de l'assurance devant le Seigneur. Quand on vient devant le Seigneur, puis qu'on a été fidèle, qu'on a bien rempli notre ministère, qu'on vient devant le Seigneur prier, on a plus d'assurance naturellement. » Versets 14 et 15, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Dans la maison de Dieu. C'est un enseignement que Paul fait au jeune Timothée. Les vieux anciens, les anciens d'expérience, doivent supporter les jeunes anciens, enseigner, les enseigner, les courager. Ce que l'apôtre Paul fait ici avec Timothée, c'est qu'il lui dit « Lâche pas! » Je vais essayer de venir te voir bientôt, mais lâche pas. Paul veut que l'église de Timothée soit en ordre, conformément à la décision prise lors de l'institution des diacres, l'organisation de l'église. Puis ça, c'est encore nécessaire aujourd'hui pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que l'assemblée, que l'église soit en ordre. On est très frileux avec la notion de hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'on a été chaudé par notre ancienne religion. Mais l'institution des diacres, des anciens même, puis des diacres, ça ne visait pas à créer des classes dans le sens de dirigeants, dans le sens... d'autorité ou de servitude, mais ça avait pour but de mettre en ordre de façon à ce qu'il y ait des classes de serviteurs. Dans un banquet, il y en a qui servent l'eau, il y a des serviteurs qui servent l'eau, puis il y a des serviteurs qui servent les mets fins. Mais les deux sont importants. L'Église, c'est ça. On est tous des serviteurs de Dieu. On n'a pas le même service à accomplir, mais il faut le faire, accomplir notre service, mais sans penser qu'on a que les uns sont plus importants que les autres. Après ça, il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu sur la terre, c'est l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Chacun des chrétiens, on a le temple du Saint-Esprit, l'Esprit. Lorsqu'on est sauvé, Dieu met son esprit dans nos cœurs. Puis l'ensemble des chrétiens ensemble, on est l'épouse de Christ, puis il nous dit quoi? Il dit on est la maison du Dieu vivant. Dieu vit dans nos cœurs, puis Dieu vit dans l'Église. On a la responsabilité de porter et de perpétuer le message de l'Évangile qu'on a reçu. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas nous autres. C'est le Seigneur qui le fait. Donc, ce n'est pas nous, mais le Seigneur, mais il veut nous utiliser pour le faire. Puis on doit être disponible pour être utilisé par le Seigneur. Parfois, il y a des choses qui nous déplaisent. Ce n'est pas toujours parfait. Si on était tout seul, on ne ferait pas ça comme ça. des choses qui peuvent me heurter un peu. Mais il faut regarder au-delà de ça, au-delà de notre personne, s'élever au-dessus de ça, avoir une vision du plan de Dieu, oublier nos intérêts personnels. Verset 16, l'apôtre Paul, il dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » J'ai failli pas traiter ce verset-là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais la colonne est l'appui de la vérité. La vérité de l'Évangile, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Tout tourne autour de Jésus-Christ. Puis dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que Jésus y est venu, il a été reconnu, il a été prêché, il a été cru, puis il a été glorifié. Finalement, pour terminer, Philippiens chapitre 3, versets 14 à 16. Ça, c'est c'est un verset qu'on pourrait avoir ici sur nos murs. L'apôtre Paul, il dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, on est parfait. Comment ça se fait qu'on est parfait? On est parfait en Jésus. Pourquoi qu'il nous dit qu'on est parfait? C'est parce que c'est en Jésus qu'on est parfait. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » L'apôtre Paul, il disait pas « je pense que c'est ça ». Non, il disait « c'est ça ». Si vous êtes d'un autre avis, il dit « Dieu va vous éclairer ». Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. C'est ça qu'on a besoin de faire. Puis, à l'arrivée de à l'approche de notre réunion annuelle qu'on va avoir après-midi, puis de notre marche chrétienne, comme assemblée chrétienne, c'est ça qu'on a besoin de faire. Marcher d'un même pas. L'apôtre Jean, il a dit... Le Seigneur qui a dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous arrivons dans les temps de la fin. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais on sait que ça approche. Seigneur Jésus a dit, « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide à mettre ce qu'on vient de voir en pratique. Merci.